Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et c'est toujours Régis au micro. Aujourd'hui, une émission un peu particulière.
Toutes les écoles, je dis bien toutes les écoles et toutes les universités de toute l'île de France, c'est-à-dire de Paris et des départements limitrophes, seront fermées demain. Donc n'envoyez pas vos enfants à l'école. Si vous êtes étudiant, n'allez pas à l'université. Par mesure de sécurité, ça nous permet de
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sans doute un peu surpris par ce début d'émission. En effet, aujourd'hui, je suis accompagné dans cette émission de Jean Choury, conseiller musique auprès de la délégation académique aux arts et à la culture et professeur de musique en collège et lycée, et également de Jean-Hugues Motta, proviseur du lycée professionnel de Pontchéruy. J'ai grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Qui êtes-vous, l'un et l'autre ?
Alors, je suis Jean Choury, je suis enseignant donc en collège au lycée Hector Berlioz et enseignante d'éducation musicale. Et il est vrai que 3 jours dans la semaine, je travaille à Grenoble en tant que conseiller musique pour le rectorat de Grenoble. J'ai fait de la musique dès le CE2, dû à un choc émotionnel en école primaire, ce qui m'a donné envie de suivre des études au niveau du conservatoire et faire des études universitaires pour obtenir les diplômes, pour être professeur, enseignant de collège.
Bon, très beau parcours déjà. Hein bon. Merci. Et Jean-Hugues, alors, et
vous actuellement, proviseur du lycée professionnel de lycée à Pontchéruy, ancien professeur d'éducation musicale et de chant choral, passionné de musique depuis toujours, et ça continue à nourrir... ma vie privée, bien évidemment, mais aussi ma vie professionnelle, tout à fait, encore toujours aujourd'hui, voilà.
Et on peut savoir ce qui a provoqué ce choc émotionnel, Jean ?
L'écoute de la vie de Bach, Jean-Sébastien Bach, grâce à un instituteur. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment un choc qui m'a fait dire « il faut que tu fasses ça ». Ça a été complètement, sans savoir exactement quel pouvait être l'aboutissement de cette idée, j'ai eu envie de faire la musique.
D'accord. Et vous, Jean-Hugues, c'était ?
Bach aussi.
Voilà. Mais qui se pas... ressemble, ça semble.
Voilà, c'est pas très étonnant, ceci dit. Le générique, bon, c'était à l'âge primaire, hein, le générique d'une émission pour jeunes était une fois l'homme, si je connais le titre, voilà. Donc c'était une œuvre pour orgue, en fait, hein, la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach.
D'accord.
Et je trouvais ça extrêmement moderne, très surprenant. Voilà, et puis finalement, bon, j'ai appris quelques temps après que le compositeur était mort depuis bien longtemps, mais pour moi, à cette époque-là, c'était la musique la plus moderne qu'on pouvait imaginer. Voilà.
D'accord.
Comme quoi, quelquefois, les émotions ne sont pas toujours conformes à l'âge des œuvres. Voilà.
Bien, alors après ces présentations, est-ce qu'on peut parler maintenant de ce que nous venons d'entendre ? Parce que c'est un peu déroutant quand même, hein, dans une émission dite de musique entre guillemets classique, bien que j'ai horreur de ce mot-là, on a entendu des choses tout à fait surprenantes. Vous pouvez nous en parler l'un et l'autre un petit peu. On a entendu de la musique quasiment classique, hein, entre guillemets toujours. Mm-hmm. On a entendu du bruit, on a entendu des paroles, etc. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça ?
Ben, c'est le résultat d'un projet qui s'est passé avec des élèves du lycée L'Odyssée de Monsieur Jean-Hugues Motta, chez Monsieur Jean-Hugues Motta. où ben, évidemment qui fait allusion sacrément à ce qui s'est passé le 13 novembre, donc les attentats de Paris, et donc c'est le résultat, c'est une production, une création d'élèves autour des attentats, avec l'intervention d'un quatuor à cordes frottées très connu, le quatuor de Bussy.
Bien, et donc qui a participé à ce projet ?
Il y a eu tout l'établissement, en tout cas, a pu bénéficier de ce projet, puisque le quatuor de Debussy a touché toutes les classes de l'établissement, mais notamment deux classes particulièrement dans cette création. Des élèves dits décrocheurs, je n'aime pas bien le mot, mais bon, des élèves, oui. C'est-à-dire qui n'ont pas d'orientation et qui essaient d'être rassemblés dans une classe pour que l'année puisse leur permettre d'avoir une formation suffisante pour avoir une nouvelle orientation.
En fin d'année, donc.
En fin d'année.
Après ce parcours scolaire un peu particulier, entre guillemets, non ?
Particulier.
Voilà, il s'agit d'élèves qui, effectivement, ont plutôt raté le coche de l'orientation en fin de troisième.
Oui.
Donc, comme ils n'ont pas d'affectation en lycée, on les récupère et on reconstruit avec eux un projet d'orientation.
Voilà. D'accord.
Un projet d'avenir, hein, c'est le nom un peu que ça porte. Donc, ils ont un an pour reconstruire et de la motivation et des idées sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Voilà.
Et l'idée, pardon, j'interviens encore, l'idée, c'est que la création musicale, enfin, l'interaction musicale, je ne sais pas comment le dire, en fait, c'est vous qui allez me le dire, peut leur permettre justement ce redémarrage, entre guillemets, remise à niveau, je ne sais pas comment dire non plus.
Mais moi, je pense que les projets artistiques et notamment les projets pédagogiques et notamment les projets artistiques doivent être à destination de ces publics-là. Particulièrement. Lorsque des élèves sont en rupture avec l'école, c'est parce qu'ils ne croient plus à l'école.
Ouais.
Et il faut proposer de nouveaux dispositifs pour que, l'espace d'une année, ils puissent réintégrer les bancs de l'école pour justement avoir une chance de nouvelle orientation. Les projets pédagogiques vont être un moyen de donner un sens clair avec des objectifs définis. Que parfois le cours ordinaire ne donne pas pour ce type de jeunes.
D'accord. Comment avez-vous travaillé donc avec ces jeunes ? Comment est-ce que le projet a évolué ? Et est-ce que ça s'est inscrit dans juste la durée de l'année scolaire ? Ou est-ce qu'au contraire ça a été plus large ou plus court que ça ? Comment ça s'est passé ?
Ça s'inscrit sur toute l'année scolaire et il y a eu un projet de départ. Qui n'était pas du tout celui-là, celui de parler des attentats.
Vous parlez des attentats de janvier, non ?
Alors, en fait, le déclencheur, ça a été les attentats du 13 novembre.
D'accord.
Et le projet avait déjà commencé, un projet qui s'inscrivait sur l'année jusqu'au mois d'avril, sur l'année scolaire.
On parle bien du 13 novembre.
Voilà. Et il se trouve que on partait sur une idée de projet, de cartes sonores partant des bruits de machines que l'on a dans les classes d'atelier du lycée pour en faire des cartes sonores et donc mieux intégrer le milieu du travail par le biais de l'artistique et de la création artistique. Le 13 novembre est arrivé avec un gros malaise pour tout le monde, mais aussi pour ces élèves-là dits décrocheurs, avec notamment un élève qui est venu avec une photo prise sur le mur d'une mosquée et spécifiant un slogan raciste. Et du D'accord. coup, une discussion s'est enclenchée et le projet est parti sur cette thématique-là.
Jean-Hugues, un commentaire complémentaire ?
Le principe, toujours, qui fonctionne avec les EGDEV, qu'ils soient décrocheurs ou pas, c'est la pédagogie de projet, pour donner du sens au cours ordinaire, mais aussi permettre de travailler clairement les compétences des différentes disciplines. C'est-à-dire D'accord. qu'on croise plusieurs contraintes scolaires dans ce genre de projet. L'avantage, c'est que les élèves accrochent et font des maths, du français, du culturel, de l'artistique, des fois du sport, etc., sans forcément ressentir le poids de toutes ces disciplines qui peuvent être très académiques, quelquefois. D'accord. Là, c'est pas le cas. Donc forcément, on gagne sur tous les terrains. C'est la grande force de la pédagogie de projet.
D'accord.
Voilà. Donc pour ces élèves de la MLDA, donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire, la politique de l'établissement, c'est aussi les intégrer parmi les autres élèves qui ont le même âge que voilà. Donc on a voulu absolument, dès le départ du projet, mélanger, assembler, on va même dire, des élèves qui sont déjà dans un cursus de formation professionnelle et ceux-là qui ne le sont toujours pas. Voilà.
D'accord. Ok, alors je vous propose d'écouter tout de suite la deuxième intervention musicale, qui est la production de la première MEI. Première MEI, pour les néophytes comme moi, c'est quoi ?
Alors des élèves qui sont en bac professionnel, donc au niveau première, c'est la deuxième année, hein, que c'est la même structure de bac que le bac général et technologique. Et MEI, donc, c'est des élèves qui sont dans la maintenance des équipements industriels.
D'accord. On écoute tout de suite ce deuxième extrait.
I love you all the time. Au milieu du concert, le temps de respirer leur dernier bouffée d'air. Il fallut à peine une seconde pour que le public se rende compte que les détonations ne sont pas des pétards lancés par des banlieusards. La suite, vous la connaissez. 130 décès et d'innombrables blessés. Ce qui m'a le plus touché dans cette histoire, c'est un article d'un père plein de désespoir qui a perdu sa fille de 17 ans. Tous les internautes sont mis à sa recherche désespérément. Au fur et à mesure que les jours passent, tous les blessés sont identifiés. Hélas, le verdict est tombé. C'est la plus jeune fille et la dernière victime identifiée. Je n'imagine pas la douleur de la famille, qui n'espérait qu'un signe de vie. Sa recherche, pour moi, était un dernier espoir. Ça ne m'a pas rendu triste ou en colère. Juste un sentiment de culpabilité. Comme si c'était de ma faute. La tribune du père m'a beaucoup touché. Cela parle du divorce entre les Français et leurs dirigeants. De la politique désastreuse au Moyen-Orient. Où la France entretient d'excellentes relations avec le Qatar. Il affirme qu'il n'ira pas à l'hommage. Dommage, direz-vous. Je suis du même avis que lui. L'État porte une trop lourde responsabilité pour ce qui s'est passé.
Le monde. Je vois le monde comme une bulle de stupidité. Un monde basé sur le regard des gens. Un monde où on tue pour un simple regard. Vous n'êtes pas des gangsters que des ignares. Un monde où on tue pour une différence de couleur. Beaucoup de monde se plaint de ne pas avoir acheté les dernières Nike. Alors qu'à l'autre bout du monde, on marche pieds nus. On se plaint de l'école. Oui, c'est chiant. Mais combien rêverait d'être à notre place ? Regardons-nous dans la glace. Alors les hommes, que font-ils ? Ils laissent mourir de faim le peuple qui n'a plus rien dans les tiroirs. On en assumera les conséquences à cause d'idiots au pouvoir. Mais il n'y a pas que. Il est à nous. Oui, nous. Oui, nous, humains qui ne pensons qu'à nous. Oui, nous, hommes ou femmes. Oui, nous, habitants de ce bas-monde. Oui, nous, qui partirons tous un jour. Enfants le matin, théâtre le soir. Égoïste un jour, indifférent toujours. Violence attentat, à quoi bon tout ça ? Si on n'arrête pas, on court à la cata. Pour ça, il faut marcher du même pas. Je vois le monde comme une bulle de stupidité. Un monde basé sur le regard des gens. Il faut que le changement se fasse maintenant.
Sur ma chaise. Moi, je suis sur ma chaise de classe près de nous. Dans le joli pays de France où il y a des meufs. Oui, des meufs. Quelques chiens enragés m'ont tué plusieurs fois dans la nuit. Ils sont apparus dans l'obscurité pour exploser dans une foule apeurée. Beaucoup de Français ont perdu la vie alors qu'ils travaillaient, alors qu'ils sortaient un vendredi soir basique. Mais ils n'auraient jamais imaginé que ce serait leur dernier. Ce jour, vendredi 13. Moi, je suis toujours sur cette chaise à Lyon pour ma deuxième heure de français. Et je me demande, que font les hommes sur Terre ? Peut-être qu'ils traînent sur des transats à Rio, ou bien qu'ils sirotent leur mojito sur des chaises à Bamako, ou bien qu'ils sont assis dans le hall d'escalier. Des personnes meurent sur leurs chaises, assiégées dehors. Pendant que moi, là, peinard sur cette fameuse chaise, je tue mes neurones. Certains essayent de survivre à la misère ou à la guerre. Et les riches, peinard dans leur villa, assis dans leur canapé VIP, à côté de l'énorme fessier de Kim Kardashian, remuant leur main. Mon pays, la France. La France et ses beaux paysages. La France et sa gastronomie qui vous donne envie. Son fromage qui nous réjouit. Et son vin qui nous ravit. Ses mers et ses océans bleus à en perdre la vue. Ses cascades vertigineuses. Ses villes mythiques reconnues dans le monde. Et ses monuments qui ont marqué nos esprits depuis des décennies. Son climat tempéré. Ces saisons douces, dès qu'on sort de chez nous, on peut voir des paysages magnifiques, des montagnes gigantesques, sa faune et sa flore, on se croirait au paradis. Même si cette description a l'air d'une carte postale, aujourd'hui, notre pays a mal. Les attaques terroristes ont retenti, mais nous, Français, sommes restés tous unis. Toutefois, certains dénigrent notre pays. Nos ancêtres se sont battus jusqu'à la mort pour notre avenir. Nous, Français, on se plaint continuellement. Alors que dans certains pays d'Afrique, les villageois ne peuvent même pas se déplacer librement. On ne sait pas la chance qu'on a. Elle est et restera mon pays, ma patrie. Nous ne devons pas avoir peur de crier haut et fort que nous sommes Français.
Incroyable, hein? Moi, ça me touche, vraiment. On a entendu de la musique.
Oui.
L'adagio pour corde de Barber, hein, qui sous-tend un peu ces prises de parole. Mm-hmm. Je ne sais pas trop comment dire. Hein. Mm-hmm. C'est vous qui l'avez vécu, je crois. Vous pouvez l'un et l'autre nous dire un petit peu ce qui s'est passé là.
Alors, il y a eu un atelier d'écriture. Il y a eu plusieurs ateliers en définitive, et notamment l'atelier d'écriture avec Pascal Demonet, prof de français histoire géo en lycée professionnel, qui a fait un travail formidable sur l'écriture de textes. Et ces textes sont issus soit d'un jeune, ou de deux jeunes, ou de trois jeunes. C'est-à-dire, on a laissé totalement libre la configuration par rapport au travail du groupe, la configuration du groupe. Et ça a donné ces textes-là, qui ont été parfois un peu retouchés par l'enseignant, mais beaucoup d'entre eux sortaient directement des tripes, si je peux m'exprimer ainsi, des élèves. Et l'enseignant français m'a toujours dit qu'il y a bien des textes qui n'ont pas du tout retouché, mis à part les fautes, retouché parce que c'est sorti tout seul, parce qu'il y avait un besoin de s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé le 13 novembre.
D'accord.
Et l'autre idée, c'est que nous, on avait à réfléchir à comment toucher ces jeunes par le classique, puisque souvent, on associe ces jeunes un peu de banlieue, même si Pontcherry est un îlot de béton au milieu de la nature. Moi, je trouve qu'il y a quand même les caractéristiques de la banlieue, un peu lyonnaise. Et souvent, on associe ce public-là au slam. D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre, c'est de l'écriture de texte qui correspond au slam. Et l'idée était de réfléchir à comment amener ces jeunes, justement, à un domaine, le domaine du classique. Ce domaine-là qui ne leur est pas du tout offert, proposé. Souvent, quand on parle des jeunes de banlieue, c'est automatiquement le slam. Pourquoi ? Enfin, un compositeur, il a toujours composé pour l'humanité, il n'a pas composé pour une élite ou un groupe de personnes. Bien Donc sûr. Il fallait absolument faire venir le classique à Pontcherry, au lycée de l'Odyssée.
Ça me rappelle une notion un peu musicale qui est le chanter-parler, en fait. Hein. Ce mariage du slam, tel qu'on l'a entendu, et de l'adagio de Barber, ça me fait un peu penser à ça. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça quand même. Mmh. Il y a une question que je me pose, c'est bien sûr, ces élèves sont tous différents. Par définition, nous sommes tous différents les uns des autres. Peut-être là encore un peu plus différents les uns des autres par leurs origines, par leurs caractéristiques entre guillemets. Hein. Moi, j'ai été parent d'élèves et je me dis mais devant un tel projet, qu'est-ce que j'aurais dit, comment j'aurais réagi? Alors c'est un peu ma question aujourd'hui. Comment ça s'est passé avec les familles d'une part et puis ces familles qui sont toutes de provenance et d'origine différentes?
Justement, sur le lieu du lycée L'Odyssée, on a, enfin, je ne vais pas généraliser, mais on a des familles qui peuvent être en conflit, justement, avec l'institution scolaire. Le fait de retrouver leurs enfants dans cette situation-là les amène justement à avoir leurs enfants valorisés par le système. Donc c'est justement la carte qui est à jouer par rapport à ce type de projet, puisque ça valorise totalement le jeune et il est en succès total par rapport à l'école et par rapport donc aux apprentissages.
J'ai envie de dire, vous avez travaillé avec des élèves décrocheurs et avec des familles décrocheuses.
Aussi.
On peut dire ça comme ça ?
Oui, souvent... décrocheuses pour les familles de l'école, hein, plus qu'en conflit. En conflit, c'est pas vraiment le cas, mais des familles qui sont en difficulté par rapport à l'école, par rapport à comment communiquer avec l'école, comment jouer leur part de parents à l'école, c'est des fois difficile.
Bien sûr.
C'est rarement des parents qui ne s'intéressent pas à l'école, mais elles ne savent plus faire. Comme le jeune a souvent été en difficulté, à un moment donné, elle se demande, mais moi, comment je fais? Voilà, c'est vraiment ça.
D'accord.
Donc, ce genre de projet, c'est vrai que ça peut renouer des liens avec les familles.
D'accord.
Et dès qu'on renoue des liens avec les familles, forcément, ça facilite le raccrochage scolaire des élèves.
Ouais,
ou le maintien de la motivation pour les élèves qui n'ont pas des décrocheurs. Hein, voilà.
D'accord.
C'est toujours un plus. Hein, de travailler avec les familles, c'est toujours un plus.
Oui, ça,
quel que soit le projet, etc. Voilà. Et même si des fois, on peut des fois être mécontent des familles, mais c'est plus quelque part par rapport à ce qu'on a pu faire ou pas faire, c'est-à-dire on n'a pas réussi à les raccrocher, à les voir, etc., à les faire venir. Elles attendent beaucoup de l'école. Quelquefois, elles ne pètent pas à la hauteur de leurs attentes. Des fois, peut-être qu'elles attendent trop de nous.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, aussi, hein, c'est vrai qu'on ne peut pas tout non plus.
Ouais.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut tout le temps garder un contact avec elles, même quand, de temps en temps, les choses ne sont pas très agréables à dire ou à faire.
Voilà. Ouais, d'accord.
Voilà, c'était un projet agréable, hein, pour le coup. C'était forcément une bonne chose.
J'ai bien aimé les deux opinions. Hein. Mmh. Jean Choury nous dit... C'est des familles qui sont un peu en conflit. Jean-Hugues Motta nous dit, non, ils sont pas vraiment en conflit, ils sont plus en attente, finalement. Moi, j'aime bien cette confrontation des deux points de vue, parce que finalement, on arrive à se faire une idée du comment ça se passe, quoi, en fait, hein, dans vos établissements scolaires, et en particulier à Pontchéry. Alors, moi, je vous propose maintenant une troisième pause musicale, et on va entendre un document de travail, hein, en fait, de la classe MLDS, donc. Hein. Alors, c'est un peu brut de décoffrage, hein, si j'ose dire. Mais ça serait intéressant ensuite que vous nous disiez un peu ce qui s'est passé justement pendant ce temps de travail. On écoute.
Quand les événements arrivent, c'est la vie qui part à la dérive.
Le quotidien fout le camp, quelques minutes suffisent.
Au Stade de France, au Bataclan, le ticket de la mort était payant.
Cri de joie pour un but marqué, ce soir-là, des balles ont été tirées.
Les cages n'étaient pas visées, le bonheur d'une sortie en horreur s'est transformé.
La mort ne prévient pas, la vie ne revient pas.
L'alarme nous alerte.
La panique nous habite.
Le feu d'artifice n'était pas prévu.
La mort non plus.
Terrorisés par ce qu'ils ont vu, s'échapper était leur seul salut.
Laissez parler les cons, respectons les religions.
Musulmans n'est pas truand.
Juifs et chrétiens ne sont pas différents.
Athée est un choix à respecter.
À chacun sa communauté.
Donc là, on vient d'entendre un document de travail, de la musique, bien sûr, mais des paroles aussi, hein, toujours un peu dans cet esprit classique et slam, hein, j'ai l'impression. Vous pouvez nous en dire un peu plus, l'un et l'autre, hein.
Alors, il se trouve que, de nouveau, on retrouve l'esprit slam. On entendra tout à l'heure un autre extrait où, justement, il y a autre chose qui est proposée, oui, par rapport à ça.
Oui.
Mais ce texte a été écrit donc par les élèves décrocheurs à partir du moment où deux élèves m'ont dit « Moi, je veux écrire. J'écris déjà et je veux écrire. » J'ai fait appel à une personne, Françoise Ferrara, avec qui j'avais l'habitude de travailler, pour qu'elle travaille particulièrement en atelier avec ses deux élèves. Et on a découlé ce texte-là. Alors, c'est un document de travail, puisque donc là, c'était vraiment dans l'atelier de pratique, l'atelier son. C'est un document de travail parce que le texte est dit du début à la fin, sans de respiration, sans d'espace au milieu. Donc, c'est un travail qui a été fait par la suite, pour le concert qui a eu lieu le 5 avril, justement avec Françoise Ferrara, qui a notamment une troupe de théâtre. Donc on les a amenés aussi à s'exprimer en public, avec la pose de voix qu'il faut, avec la diction, d'accord, qu'il faut, etc.
D'accord. Ok. Jean-Hugues, un petit commentaire.
Un petit commentaire, oui, une remarque par rapport au rapport des jeunes avec la musique dite classique ou dite savante. Ça n'a jamais posé problème, en fait. Dès que ce qu'on leur demande a du sens, la question ne se pose plus si c'est de la musique classique ou pas.
Ouais.
Soit c'est porteur d'émotions, de sens, soit ça l'est pas. Si ça l'est, ils prennent sans se poser de questions. Donc ça s'est fait très naturellement. Il n'y a jamais eu de rejet, que ce soit les élèves des deux classes concernées ou les autres élèves qui ont eux aussi été en rapport avec au moins une expérience avec le quatuor à cordes.
D'accord.
De Bussy.
Oui.
Donc ça, c'est ce que j'observe, un petit peu la leçon que j'en tire. Il n'y a pas d'opposition ou de rupture entre la musique dite savante et les jeunes. La question, c'est de créer l'occasion, la bonne occasion, la bonne méthode pour qu'ils puissent finalement y avoir accès et fortement l'apprécier, même si quand ils font leur choix personnel, c'est pas forcément vers ça qu'ils vont aller.
Oui, et justement, le premier contact, moi, je voulais insister sur ça, parce que c'est un peu la marque de fabrique du quatuor de Bussy, c'était d'intervenir de manière un peu flash mob dans les classes de l'espace de 15 minutes, en plein cours, sans que les élèves soient au courant, pour les surprendre.
Sans prévenir.
Sans prévenir, mis à part
juste le professeur,
mis à part les enseignants.
Oui, bien sûr.
Et ça a été le premier contact. Du coup, on appelait ça des brigades sonores, où chacune des classes, lors des trois interventions durant l'année du quatuor de Bussy, ont été touchées. Et on a eu le système d'alarme sonore, où là, on avait le quatuor qui jouait dans des lieux de vie, style avant d'aller manger au réfectoire. On sait qu'il y allait avoir du monde pendant les récréations.
D'accord.
Et du coup, le quatuor jouait et les jeunes s'arrêtaient pour écouter. Donc
d'accord,
c'était le premier contact avec la musique classique. Donc ils n'ont pas eu non plus à se poser des questions par rapport à ça. Et comme dit Jean-Hugues, on se pose plus de difficultés qu'il y en a. Parce que ça se fait tout à fait
d'accord,
naturellement.
Ouais, d'accord. Alors, moi, je vous propose d'écouter maintenant le document final, qui est donc toujours la production de la classe MLDS. Et on écoute, donc, après ce document de travail, on écoute la vraie production, entre guillemets.
هوس ندير قنية زينة مليحة وشابة
نسحو الحرم بالأغنية وندير أغنية زوينة وندير أغنية مليحة وندير أغنية فنية
Dallas sera notre réponse à la violence faire de la musique intensément avec plus encore de beauté et engagement.
Bu cevap şiddete karşıdır. Yoğun biçimde müzik yapacağız. Hatta fazla güzellik ve taahhüt.
Isto será a nossa resposta à violência, fazer música com mais intensidade e com ainda mais beleza.
Esto es nuestra contestación a la violencia, crear música más intensamente con la enorme belleza del compromiso.
Rosalina, musiquilla, MLP, ya.
na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso. Oyo eza eyano na biso ya violansi, tozali na miziki ya ebele pe ya mozindo na lisusu ebele ya kitoko na koyoka pe biso nyonso.
Voilà, donc nous venons d'entendre la production de cette classe MLDS. Moi, je suis tout étonné de voir ces élèves s'exprimer dans leur langue sur toujours ce quatuor à cordes de Mélitz. Quelques mots là-dessus ?
En fait, cela correspond justement au positionnement que ces élèves ont eu par rapport à suite aux attentats du 13 novembre. Dans le déroulement de l'agression qu'ils ont réalisée, on est parti en fait sur une phrase de Leonard Bernstein suite aux attentats du président Kennedy qui disait « Cela sera notre réponse à la violence, faire de la musique plus intensément avec encore plus de beauté et d'engagement. Mmh. » Donc l'idée est tout de suite venue que chaque enfant, il y avait 9 nationalités différentes, oui, dans la classe, oui, d'origine. Et du coup, l'idée a été de traduire, mais on les a laissés totalement libres, on n'a pas voulu faire du mot à mot. On les a laissés libres pour qu'ils traduisent dans leur langue cette phrase-là. Et du coup, c'était l'idée d'avoir des cartes d'identité différentes, mmh, aux réponses aux attentats, mmh, du 13 novembre. Donc la richesse de ces enfants-là vient de leur propre culture.
D'accord. Jean-Hugues ?
C'est à l'image de l'établissement et de Pont-de-Chéruy en particulier. Hein. C'est une zone qui a brassé des gens de tous horizons, hein, de toutes nationalités. Il y a plus, quasiment une trentaine, je pense. D'accord. Donc c'était intéressant que ce point d'identité de ce secteur soit aussi dans le projet.
D'accord.
Voilà.
Alors, il y a une chose qui s'est passée, c'est que le 5 avril, il y a donc eu le concert qui a été donné dans un lieu un peu particulier, je crois, qui est la MJC de Pont-de-Chéruy. Et pourquoi ? Alors que je crois savoir qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés au niveau de l'acoustique, entre autres.
Voilà, donc on voulait intégrer toute la zone, tout le secteur, hein, que le projet déborde un peu du lycée, qui soit ouvert aux parents, et pas seulement aussi aux citoyens de l'agglomération pontoise, c'est-à-dire Pont-de-Chéruy, Tignieux-Jamézieux, Chavanoz, mm-hmm, et Charvieux-Chavagneux, voilà.
D'accord.
Donc il y a une MJC, c'est une des rares structures intercommunales de ce secteur, donc
ouais,
on voulait travailler avec eux, on le faisait avec sur d'autres projets déjà, hein, mais les intégrer, et puis on avait besoin d'une salle de concert de toute façon. Alors elle n'est pas vraiment adaptée à ce genre de concert, mais malgré tout, les techniciens de la salle, plus les professionnels que sont le quatuor à cordes de Bussy, mais aussi Le festival Les Tours de Babel ont permis de s'en dépatouiller, en fait, et d'avoir un bon résultat, je pense.
D'accord. Donc ça a été une concertation, si je puis dire, entre différentes parties prenantes. Et le résultat a été, je crois, tout à fait étonnant. Je n'ai malheureusement pas pu assister au concert, j'étais pris par ailleurs, mais je crois savoir que ça a été une vraie réussite.
Partie prenante de tous, il faut pour qu'un projet réussisse qu'il y ait un partenariat transparent où chacun se positionne par rapport à ce qu'il a à faire, et ça a été le cas durant toute l'année et tout s'est passé sans aucune tension parce que chacun avait sa place, aussi bien la partie artistique que les partenaires institutionnels ou les partenaires tels que les Détours de Babel de programmation.
En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est passée la relation entre les artistes, le quatuor Debussy donc, et les élèves?
Très très bien. Christophe Colette, le premier violon du quatuor, est quelqu'un de profondément bienveillant, qui a l'habitude de travailler soit dans les milieux hospitaliers pour en destination des enfants, les milieux de la prison. Deux ans auparavant, ils avaient travaillé avec le lycée Edison, qui est, à mon sens, un peu ressemblant du lycée de l'Odyssée, lycée Edison, qui est sur Grenoble. Donc c'est une politique réelle que le quatuor a et en tête de file Christophe Colette.
Alors, il y a une autre œuvre qui est intervenue dans votre parcours, c'est L'Empereur d'Atlantis de Victor Ullmann. Et on va l'écouter tout de suite et on en reparlera après, si vous voulez bien.
Thank you.
Voilà, nous venons d'entendre donc cet empereur de l'Atlantis de Victor Ullmann. Ullmann, pardon, puisqu'il est allemand. Vous êtes bien toujours sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez toujours Au fil des notes. Et aujourd'hui, je suis avec Jean Choury et Jean-Hugues Motta, deux membres de l'Éducation nationale. Alors, Jean, qui est Victor Ullmann et une explication sur cette œuvre un peu déroutante.
Victor Ullmann, c'est un compositeur tchèque qui est né en 1898 et mort au camp de d'Auschwitz-Birkenau le 18 octobre 1944. C'est un pianiste et un compositeur. Il a écrit 41 opus, aussi bien des leaders que des sonates, quatuors. Voilà. Il a une œuvre particulièrement connu de répertoire, enfin, qui est justement l'Empereur d'Atlantis, qui a été composé en 1944 dans le camp de concentration de Theresienstadt et qui est devenu l'ouvrage symbole de la destruction de plusieurs générations d'artistes juifs.
Une œuvre de résistance ?
Tout à fait. Donc à Theresienstadt, alors même qui était un centre en fait de où les artistes étaient juifs notamment étaient envoyés et où la musique n'était pas utilisée évidemment pour être résistante.
Bien, j'imagine, volontiers, oui. On a même parlé à cet égard de la musique instrument de torture.
Exactement. C'est-à-dire que dans ces camps de concentration, la musique était utilisée, mais régulièrement, comme un instrument de torture, puisque on entendait la musique au travers des haut-parleurs constamment, lors des appels qui pouvaient durer 6 heures. Lorsque les prisonniers faisaient des marches, cette musique qui est quand même à l'origine fait partie du système éducatif allemand et notamment dans les jeunesses hitlériennes a été utilisée dans les camps de concentration comme un moyen de torture pour les prisonniers qui étaient dans les camps.
D'accord. Oui, donc cette œuvre a été entendue, écoutée par les élèves, si j'ai bien compris, non ?
Tout à fait. Ils ont été au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, mais c'est dans la programmation de l'Opéra de Lyon. Et ils ont été écoutés puisque on a absolument voulu qu'il y ait un parcours aussi de concert, puisque ce sont des jeunes évidemment qui n'avaient jamais été dans des concerts de musique dits classiques. Donc il y a eu deux concerts donnés par le Quatuor de Bussy, dont le concert final où les élèves ont réalisé leur création, mais aussi entre les deux, le 21 mars, on a été donc au TNP de Villeurbanne pour écouter cette œuvre qui a été préparée en amont en cours avec eux.
D'accord. Et très concrètement, la réaction des élèves, en quelques mots ?
Eh bien, j'ai été particulièrement surpris parce que même s'il y avait eu une petite préparation en amont, je suis, après l'œuvre, la présentation de l'œuvre, j'étais pour parler avec eux avec des gants et tout de suite, il y en a beaucoup qui m'ont dit « mais moi j'ai beaucoup aimé ». Donc ça a été assez catégorique d'avoir un spectacle d'une heure et quart qui était sur un bon rythme, avec de la mise en scène, c'est l'opéra. Hein.
Ouais. Ça rejoint ce que disait Jean-Hugues Motta tout à l'heure à propos de cette perception de la musique classique, dite classique, savante on va dire, hein, et qui n'a posé strictement aucun problème. Alors au cours de cette émission, on parle beaucoup du Quatuor de Bussy. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur eux. Hein. Je les connais un petit peu, bien sûr. Hein. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent le Quatuor de Bussy, première chose. Vraisemblablement par référence à une œuvre de Debussy qui s'appelle le Quatuor, hein, bien sûr, le fameux Quatuor de Debussy. Il faut savoir que le Quatuor Debussy va donner deux concerts sur le territoire de la Capie prochainement, hein, je crois. Hein. Alors, oui. Je n'ai pas les dates exactes, mais il faut consulter le site de la Capie, on va trouver ça tout de suite. Hein. Peut-être quelques mots sur ce Quatuor.
C'est un Quatuor...
Je parle pas de l'œuvre musicale, je parle du Quatuor qui a accompagné les élèves.
C'est un Quatuor qui a été Victoire de la Musique en 1996, donc qui a eu cette reconnaissance par les Victoires de la Musique de meilleur ensemble de musique de chambre, et qui a une notoriété nationale, internationale. Durant l'année scolaire, lorsqu'on a fait ce projet-là, ils ont été en Chine et ils ont été même précédemment aux États-Unis.
D'accord.
D'ailleurs, ce qui était suivi par les élèves en cours d'anglais.
Oui. Moi, je vous propose donc qu'on écoute ce fameux Quatuor de Debussy. C'est un choix de Jean-Hugues. Et il a choisi dans ce Quatuor le deuxième mouvement que l'on écoute en intégralité. Voilà, nous venons donc d'entendre le Quatuor 2 de Debussy joué par le Quatuor de Debussy. Voilà. Je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est bien ça. Une œuvre de jeunesse de Claude Debussy, donc intéressante aussi, tout début de son parcours professionnel de compositeur. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ce qu'un jeune d'une vingtaine d'années, tout d'un coup, puisse imaginer. Quand on le compare à quelques quatuors à cordes qui ont été composés auparavant, alors pas beaucoup en France, c'était pas trop la tradition, c'est plutôt plus la musique germanique, mais ceci dit, on sait quand même que les Français s'y sont mis, hein. Fauré en a fait, d'autres aussi. C'était Ravel. Un peu un passage obligatoire. Alors Ravel, oui, en concurrence un peu le jeune Ravel avec le jeune Debussy,
exactement.
Sur deux quatuors à cordes, ils sont sur la date très très proche.
Alors, tout au long de cette émission, on a entendu également une œuvre de Marc Mellits. En quelques mots, qui est Marc Mellits? Quelle est l'origine de cette œuvre?
Marc Mellits est un compositeur américain influencé par deux esthétiques, la musique rock et la musique minimaliste. Et cette œuvre, Marc Mellits a écrit pour le Quatuor de Debussy. Donc c'est une œuvre écrite pour le Quatuor, dans les extraits que l'on a entendus.
Alors, on les a entendus sous-tendant, entre guillemets, la parole des élèves. Là, on va l'écouter « Nature ».
Très bien.
le quatuor de Marc Mellits, compositeur américain. Quelques mots sur cette œuvre, Jean et Jean-Hugues.
Cette musique, elle fait partie donc du courant minimaliste, c'est-à-dire la musique répétitive. Ça, c'est le terme qu'on utilise plutôt en France. Donc, c'est une musique qui va se baser sur une cellule mélodique ou mélodico-rythmique et qui va subir des variations au fur et à mesure, mais de façon très progressive. C'est avec peu de matériel exprimer le maximum.
D'accord. Jean-Hugues, un petit commentaire.
Une œuvre récente, hein, composée pour le quatuor Debussy, donc qui a été créée ces derniers mois. Vraiment musique contemporaine, hein, mais d'accord, abordable, tout à fait facile, ouais, à écouter, facile. Où chacun peut trouver des accroches. Tout à fait. Voilà, c'est l'intérêt un peu de ce courant minimaliste ou répétitif, ouais. C'est qu'on peut facilement rentrer dans cette musique, que l'on ait fait des études musicales ou pas, peu importe. Ouais. Voilà, c'est le gros avantage.
Alors, nous allons écouter maintenant un extrait qui a été choisi particulièrement par Jean-Hugues Motta. C'est l'introduction de Roméo et Juliette de Berlioz. Et il a été choisi pour quelle raison ?
Alors, c'est en hommage à un grand compositeur français, mais aussi chef d'orchestre, Pierre Boulez, qui est mort récemment, mais qui a marqué très clairement l'histoire de la musique par ses compositions. Alors, c'est assez intéressant parce que Marc Mellits est dans un courant qui s'est construit en opposition à la musique de Pierre Boulez. Voilà, le courant répétitif
c'est
et minimaliste, ouais. C'est vraiment une réaction à une musique extrêmement savante et complexe de Pierre Boulez, mais qui a très clairement marqué la deuxième moitié du XXe siècle. D'accord. Mais c'est aussi un très grand chef d'orchestre.
Oui, absolument.
Un immense chef d'orchestre. Alors là, pour le coup, la planète entière le connaît, ça a été pendant très longtemps un des plus grands chefs d'orchestre. Et il a enregistré, entre autres, Berlioz, et pas forcément le répertoire vers lequel il allait le plus volontiers, mais il se trouve que ce qu'il a fait chez Berlioz est remarquable, et donc c'est l'introduction donc de Roméo et Juliette, qui est entre la symphonie et l'opéra, hein, c'était toujours très particulier, oui, chez Berlioz, voilà, mais c'est aussi le fils du pays, hein, Berlioz.
Ah bah oui,
voilà. Mais Boulez est aussi rattaché à la région Rhône-Alpes, hein, puisqu'il est dans la région Rhône-Alpes, donc d'accord, c'est intéressant aussi. On reste dans le local, voilà.
D'accord. On écoute. Voilà, c'était un extrait de Roméo et Juliette, l'introduction de notre ami Hector Berlioz, sous la direction de Pierre Boulez, qui nous a quittés en début d'année. Alors, cette année 2016, nous fêtons, entre autres, le centenaire de la naissance de Yehudi Menuhin, et, bon, bizarrement, c'est le 260e anniversaire de Mozart. Voilà, il est né en 1756. Alors, on a passé un très bon moment avec Jean-Hugues et Motta et Jean Choury. Mais néanmoins, je voudrais quand même juste faire quelques annonces, si vous me permettez, l'un et l'autre. Je voudrais parler du Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu. Donc, je donne juste très rapidement quelques dates. D'abord, les dates d'inscription. Donc, tout ce qui est éveil et initiation pour la musique et pour la danse, les inscriptions ont lieu le samedi 11 juin de 9h30 à 12h. Et puis, pour toutes les autres disciplines, musique, théâtre et danse également, le lundi 13 juin de 16h30 à 19h, le mardi 14 juin de 16h30 à 19h et le mercredi 15 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. Volez jusqu'au conservatoire pour vous inscrire, c'est impératif. Il faut signaler juste quelques manifestations du conservatoire qui est très riche hein, sur le mois de juin. Un mini-bal avec Geneviève Chuzel et les ateliers d'Anstrade le samedi 11 juin à 14h au conservatoire de Villefontaine. Les contes musicaux, Flidias et la harpe magique. Et en deuxième partie, la sorcière du placard au balai avec beaucoup d'intervenants et notamment les classes de formation musicale accompagnées par l'ensemble instrumental troisième cycle. Une musique de Marcel Landowski pour la sorcière du placard au balai. Un opéra pour enfants également, l'Atelier du Nouveau Monde, le mercredi 15 juin à 18h30 en salle polyvalente à Bourgoin-Jallieu. J'ai oublié de dire que les contes musicaux, c'est le mardi 14 juin 2016 à 20h en salle polyvalente. Donc l'Atelier du Nouveau Monde, mercredi 15 juin à 18h30. Ces deux manifestations sont gratuites. Là aussi, n'hésitez pas à y aller, mais il faut réserver. Pour être sûr d'avoir de la place. Plusieurs choses encore, et puis bien sûr, la grande fiesta du conservatoire le mardi 21 juin à partir de 18h30 au conservatoire même, et orchestre en fête le vendredi 24 juin à 20h à la maison du département à Bourgoin-Jallieu. Le Théâtre du Vélin a terminé sa saison, mais n'hésitez pas à aller voir son site théâtre.capi-aglo.fr. Et puis à l'Auditorium de Lyon, je suis un fidèle client de l'Auditorium. Plein de choses qui se passent également. 7 juin, un concert gratuit intitulé « Chantier de la création musicale ». Le 11 juin, la soprano Barbara Frittoli sous la direction de Alain Altinoglu dans des œuvres de Verdi et de Strauss. Le 23 juin, Pierre et Leloup de Prokofiev, dont j'ai longuement parlé dans la précédente émission avec mon ami Octavien Saunier à l'orgue. Octavien Saunier qui nous accompagne le chœur universitaire de l'Université catholique de Lyon. Voilà. Donc le 23 juin, spectacle au tarif jeune public de 5 à 12 ans. Et puis, là aussi, il faut consulter le site de l'auditorium. Et à l'Opéra de Lyon, du jazz, beaucoup de jazz et encore du jazz. Bastien et Bastienne de Mozart, dont j'ai aussi parlé dans la précédente émission. Hein. Souvenez-vous, la précédente émission, c'était l'émission consacrée à la musique et les enfants. Et puis l'enlèvement au sérail de Mozart qui sera diffusé sur grand écran sur la place Bellecour à Lyon et dans les grandes villes de la région Rhône-Alpes, Auvergne. Et bien d'autres choses encore, là aussi allez voir le site de l'opéra, opéra-lyon.com. Et enfin n'oublions pas Jazz à Vienne, bien sûr, qui commence le 28 juin et qui se terminera le 15 juillet avec entre autres, excusez du peu, Ibrahim Malouf, Goran Bregovic, San Severino, Diana Krall, Chick Corea, etc. Bien sûr, la fête de la musique le 21 juin, hein, tout le monde fait de la musique, fête de la musique, fête, F-E, accent circonflexe, mais fête, F-A-I-T-E-S, bien sûr, de la musique. Et enfin, bientôt, on vient d'en parler, le festival Hector Berlioz à la Côte-Saint-André. Et voilà, notre émission se termine. Un grand merci à Jean Choury et à Jean-Hugues Motta, mes deux compères merci, aujourd'hui. Pour tout ce travail remarquable avec leurs élèves. Merci à Sandrine qui était à la technique aujourd'hui, comme dans les précédentes émissions, et je vous dis à bientôt.